Bonjour à tous. Meilleurs souhaits à chacun. Et bienvenue à cette séance de questions et réponses. Je vais commencer par une ou deux questions qui m'ont été adressées par écrit. La première question est de Henriette Becker. Et c'est une question concernant la stance numéro 16 du chapitre 7 du Bodhicharyavatara. Comment peut-on être utile à quiconque lorsque nous sommes coincés dans l'idée de c'est moi qui fais cela pour les autres, la séparation des vies et la continuité et la fixation sur le fait de le faire au nom du Bouddha. Vous savez, dit Rinpoche, je pense que ça dépend de combien nous pouvons être utiles. On n'est pas, il n'y a pas que deux cases, une où on pourrait faire tout pour les autres et une où on ne pourrait rien faire du tout pour eux. Nous pouvons aider les autres, ne serait-ce qu'un peu. Nous pouvons le constater d'après notre propre expérience. Si quelqu'un nous témoigne un tout petit peu de bonté, ne serait-ce qu'un tout petit peu de bonté, si par exemple on demande notre chemin, et si quelqu'un avec gentillesse nous indique le chemin, si donc on a reçu de l'aide, ben on se sent bien. Et quelqu'un, quoi que ce soit, si quelqu'un nous donne de la nourriture, si quelqu'un ne fait ne serait-ce que nous sourire, si quelqu'un fait quoi que ce soit qui nous aide, ou s'ils font quelque chose de plus, on se sentira vraiment bien. S'ils font quelque chose de plus que ce qu'ils sont censés faire, on se sentira vraiment bien. Et donc, ça montre que nous, en faisant toutes ces choses, nous pouvons également venir en aide aux autres. Et aussi, la question n'est pas tant de savoir si ce que nous faisons, si ça aide réellement les autres ou pas. Il s'agit aussi de voir si, quand nous faisons quelque chose, avec l'intention ou dans le but d'aider quelqu'un, et si nous faisons cette chose avec une bonne intention, alors nous-mêmes, nous nous sentons bien. Nous-mêmes, nous nous sentons utiles, ça donne du sens à notre vie. Et ça aussi, c'est important, dans le sens où c'est bon pour moi. C'est une chose qui est utile, puisque ça vient s'ajouter à mes actes positifs. Et donc, il n'est pas indispensable que toutes les choses positives ou utiles que je fais aient un effet incroyable, un effet de transformation bénéfique, significatif à quelqu'un. Bien sûr, en tant qu'être samsarique, tant que n'allons pas au-delà de l'état d'esprit samsarique, nous avons un moi qui est très affirmé et on a toutes les émotions négatives samsariques et on a toutes sortes de faiblesses. Et donc, tant qu'on n'est pas au-delà de l'esprit samsarique, on ne peut pas être libre de l'identité au moi. Et puis, pour concernant les vies successives, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais si on fait les choses encore et encore, bah c'est bien. Mais de manière générale, on ne fait pas les choses au nom du Bouddha. On ne fait pas les choses. En fait, en tant que bouddhiste, on essaie juste d'aider, juste avec le but d'aider telle et telle personne. On ne fait pas au nom du Bouddha. Ce n'est pas la façon traditionnelle de faire les choses dans le bouddhisme, de faire au nom du Bouddha. On prend exemple sur les Bouddhas et sur les Bodhisattvas du passé. On se laisse inspirer par eux. On les prend comme nos exemples, nos guides, nos modèles, mais on n'aide pas les gens au nom du Bouddha. On ne les aide que pour les aider. Donc, si j'ai bien compris votre question, c'était la réponse. Peut-être que vous vouliez dire quelque chose d'autre aussi, je ne sais pas. Mais vous pourrez toujours, si j'ai pas répondu à tout, reposer la question. En fait, il n'y a que 3 questions, donc peut-être que je vais commencer par traiter toutes rapidement. Et la deuxième question, c'est José Mathieu. Et la question dit: merci pour vos enseignements qui aident à ouvrir mon esprit et me montrent une bonne façon de vivre. La question concerne l'énergie. On dit qu'il y a un accroissement d'énergie pendant la méditation et que le fait de développer la bodhicitta, ça nous apporte plus d'énergie pour agir d'une bonne façon. Dans la mesure où la vacuité d'une feuille et d'une pierre, elles ont la même vacuité, mais si on reçoit une feuille ou une pierre sur la tête, c'est pas pareil. Les scientifiques nous disent qu'ils ont une énergie différente. Dans la tradition indienne, on parle du prana, de la kundalini. Dans la tradition sino-japonaise, il y a le ki ou le chi. Dans le christianisme, il y a l'esprit saint, oui. Et quelle est l'explication de l'énergie dans le bouddhisme? Rinpoche répond: quand vous méditez, parce que la méditation, ça consiste à rendre notre esprit plus calme et à lui apporter la paix. Donc, quand on médite, on devient plus paisible. Donc, en méditant, on devient soi-même plus paisible. On devient plus calme. Donc, et c'est pour ça que, à cause de tout ça, on sent plus d'énergie. Et on peut tous faire cette expérience. Et si on développe la bodhicitta, alors encore c'est la même chose. On devient plus positif, on a plus de bonté, plus de compassion, on est plus compatissant, on est moins égoïste. Et puis aussi on devient plus calme, on devient plus persévérant. On devient plus heureux. Et donc, naturellement, ça nous rend plus heureux. Et quand on est plus heureux ou plus paisible, eh ben, c'est des sentiments qui sont différents. Et on peut appeler ça de l'énergie. Mais donc toutes ces choses sont relatives. Tout est là. Tout se produit de façon interdépendante, tout se produit via les causes et conditions.
Euh,
Je pense que c'est quelque chose que nous devons comprendre et de bien voir la différence entre la vérité relative et la vérité ultime. Ces deux choses, nous devons les comprendre. Sur le plan de la vérité relative, tout est là et tout se produit. La pierre, elle est plus lourde qu'une feuille. Si une feuille nous tombe sur la tête, elle ne nous casse pas la tête. Si une pierre nous tombe la tête, ça nous casse le crâne. Mais ça, c'est sur le plan de la vérité relative. Tout est là en fonction des causes et conditions. Et ça dépend des situations. Si vous faites quelque chose de bien, ça va donner des bons résultats. Si vous faites quelque chose de mal, ça va donner des mauvais résultats. Et donc, toutes ces choses se produisent. Mais quand on parle de la vacuité, en fait, on ne parle pas de la vérité relative. En fait, on parle de la nature ultime. On parle de la nature ultime, qui veut dire que si on regarde les choses profondes, si on regarde une pierre de façon profonde, en profondeur, elle est faite d'atomes, tout comme une feuille. Mais une pierre a sa propre structure. Mais quand vous la regardez en profondeur, elle est faite de beaucoup de parties, beaucoup de particules et d'éléments. Et donc, si vous regardez chacun de ces éléments lui-même est constitué de beaucoup d'éléments, chaque partie est constituée de beaucoup de parties et d'éléments, et quand vous coupez encore et encore, et donc je pense que on devrait étudier peut-être un peu la physique quantique. Si vous comprenez un peu la physique quantique, alors je pense que vous allez comprendre plus clairement ce qu'on veut dire quand on parle de la vraie nature. Vous ne pouvez rien trouver qui serait réellement là, même dans la pierre, dans une pierre. Si vous regardez vraiment, vraiment en profondeur, en fait, il n'y a rien dans cette pierre qui existe en soi. Et c'est pareil pour la feuille, c'est pareil pour moi, et c'est pareil tout. Et ça, c'est la nature ultime. Mais à cause de cette nature ultime, parce que les choses sont comme ça sur le plan ultime, eh ben, elles peuvent se manifester de plein de façons différentes. Et c'est pourquoi on parle de l'interdépendance. C'est pourquoi on parle du fait que les choses existent de manière relative. Les choses apparaissent de manière dépendante, mais et non pas par elles-mêmes. Et c'est pourquoi aussi tout peut se produire. Une pierre peut fondre, une pierre peut devenir gazeuse, et une pierre peut disparaître. Dès lors que les causes et conditions appropriées et les éléments ne sont plus là. Et de même, une feuille peut se transformer en beaucoup de choses différentes. Une feuille peut être verte, elle peut être jaune, puis rouge, et puis ensuite elle finit par disparaître aussi. Et c'est, il en va de même pour tout. Donc c'est ce qu'on veut dire par nature ultime et nature relative, et ça il faut le comprendre. Et de même, on peut avoir... le prana existe de la même manière, le chi existe de la même manière, tous ces genres de choses existent ainsi. Et ces choses, elles sont présentes. En fait, on ne peut pas dire que ces choses n'existent pas du tout. En fait, ces histoires de prana, les nadis et tout ça, les bindus, tout ça, c'est très bouddhiste. Bien sûr, ça n'apparaît pas dans les enseignements du Sutrayana, mais dans les enseignements du Vajrayana, c'est très présent. Et le chi, c'est aussi un peu la même chose. Le chi, c'est la source. En fait, tout ça, la source ultime du chi, c'est aussi le bouddhisme. Donc, tout est possible, mais toutes ces choses, si vous les regardez en profondeur, il y a toujours à la fois apparence, vacuité, conscience et vacuité. Et le pareil pour le son et la vacuité. Et donc il y a toujours ces deux plans. Et ça, c'est la compréhension bouddhiste. Et puis la troisième question de Bob lui-même. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'est-ce qu'on comment c'est quelle est l'origine ou la racine des trois formes de paresse et comment est-ce qu'elles donnent lieu à des individus différents et est-ce qu'elles sont innées ou acquises? Et Rinpoche dit, sur le fond, ces trois formes de paresse, elles découlent de l'ignorance, et puis par la suite de différentes tendances habituelles. Donc, et c'est pourquoi c'est temporaire, et c'est pourquoi elles peuvent être transformées. Si c'était totalement inné, on ne pourrait pas. Si c'était complètement intrinsèque, inné, on ne pourrait pas les transformer. Donc l'origine de ça, c'est les kleshas, et en particulier l'ignorance. Et puis ça devient des habitudes. Et donc ces différentes formes de paresse, elles sont ainsi. Mais elles peuvent être transformées. C'est, je pense, la compréhension. Donc, c'est tout pour les questions écrites que j'ai reçues jusqu'à présent. Donc, est-ce que maintenant il y a des questions en direct? Donc, Margaret, il faut. Donc ça y est, elle a allumé son micro. Ce matin, j'ai suivi des enseignements de Tai Situ et il a dit. Il a enseigné sur qu'est-ce que c'est que la liberté. Il a dit tout peut être transformé. Les cinq souillures peuvent être transformées en les cinq sagesses. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce sujet et développer ça un peu pour moi? Et Rinpoche rigole. Ah oui, elle dit qu'elle comprend les cinq souillures, mais elle ne comprend pas forcément les cinq sagesses. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce sujet, s'il vous plaît? Sans rentrer dans les détails, dit Rinpoche. Donc les cinq kleshas. Les cinq kleshas se produisent en raison de notre façon incorrecte de comprendre et en raison de comment nous réagissons. Mais si on comprenait clairement, si on pouvait comprendre et apprendre à exprimer ses émotions si vous voulez les appeler ainsi, ou ces énergies, si vous voulez les appeler ainsi, alors elles ne seraient plus des kleshas. Et c'est ça que l'on appelle les cinq sagesses. Donc en fait, c'est la même chose. Et Rinpoche dit, en fait, Margaret demande, c'est quoi les cinq sagesses? Et Rinpoche dit, en fait, c'est chacune des émotions, c'est chacune des sagesses, c'est l'émotion une fois qu'elle est transformée, en fait. Donc Clarissa maintenant. Donc c'est une question qui vient d'Argentine et la question est posée en espagnol. Est-ce que quelqu'un veut traduire, hein, parce que ça a été posé en espagnol. Je vais essayer de faire rentrer un... Donc en fait, on attend qu'on puisse avoir quelqu'un qui pourra traduire de l'espagnol vers l'anglais. En tout cas, bah, c'est une question sur la visualisation. Sur les techniques de visualisation de divinité. J'étais censé traduire. Oui, Rinpoche dit qu'il peut entendre. Et la traductrice demande qu'on lui envoie les questions par écrit. Et merci beaucoup pour vos enseignements. Vous me comprenez, Rinpoche? Oui, dit Rinpoche. Elle demande la différence entre... Quand elle fait une visualisation... Quelle est la différence pendant une visualisation entre ressentir de l'attachement pour une divinité et ressentir de la dévotion pour une divinité? Rinpoche répond. La dévotion, c'est un sentiment de confiance. Un sentiment de... Comment dire ? Un sentiment d'ouverture. Et l'attachement, c'est un sentiment de saisir. De s'accrocher à. Un sentiment de c'est moi qui m'accroche à quelque chose. Donc ce sont des sentiments de nature très différente. Mais nous, les êtres humains, nous avons un très fort. Une très très forte tendance habituelle à l'attachement, et donc on s'attache à tout, aux bonnes choses, aux mauvaises choses, et donc c'est pas facile c'est presque impossible de ne pas développer au moins un certain attachement, c'est presque impossible de qu'il n'y ait pas un peu d'attachement impliqué dans toutes les choses qu'on fait. Et donc, quand on visualise des déités, ce genre de choses, ça aussi, ça peut amener, on peut le faire avec un peu d'attachement. Vous savez, à la fin de la visualisation, on la dissout. on dissout les visualisations à la fin. Et ça, c'est pour un peu nous apprendre à ne pas trop nous attacher. Et cette dissolution, c'est un entraînement à ne pas s'attacher. Parce que l'attachement, c'est que je veux me raccrocher à ça, je veux m'agripper à ça. Donc, la dévotion, c'est une bonne chose, mais trop d'attachement, c'est quelque chose qui nous lie, LIE. Et donc, quand on fait une visualisation, quelle qu'elle soit, que ce soit une visualisation devant nous, ou on leur demande de partir, on les fait partir. Et si c'est une visualisation de soi-même en tant que la déité, alors on la dissout. Et c'est pour cette raison qu'on fait ainsi. On demande à Clarissa si elle a compris et elle dit que oui. David. Bonjour. Je voulais juste faire une remarque parce que j'ai entendu des choses que je voulais commenter. Et la première de ces choses, c'est que récemment, vous avez parlé d'attachement. Et j'ai aussi le sentiment que les enseignements eux-mêmes peuvent être un attachement, le dharma. Bien sûr, il y a des pratiques qui ne changent jamais, comme le prendre conscience de sa respiration, mais il y en a qui changent des pratiques. Et il y a des gens qui ont des pratiques alors qu'elles n'apportent pas de résultats. Et puis l'autre chose que j'aimerais commenter, c'est que vous avez parlé de physique quantique. Moi, je ne travaille pas dans ce domaine, mais cependant, j'ai remarqué un manque de compréhension de ces choses et de comment ça se relie à la pratique bouddhiste. Et je pense que c'est très lié à la non-dualité. Même si aujourd'hui, avec les mathématiques et l'informatique, les choses changent si vite. Et donc c'est dur de rester connecté avec tout ça et de rendre les choses compréhensibles. Mais en tout cas, j'apprécie les efforts et le temps que vous nous accordez et la possibilité d'échanger avec vous. Donc merci beaucoup. Vous savez, Dirin Poche, en général, on dit que le dharma, c'est le chemin. Le dharma, c'est aussi dans le l'Anuttara Tantra Shastra, il est dit que le dharma et la sangha sont comme un navire que vous utilisez pour traverser la rivière et puis ensuite vous n'avez plus besoin de transporter le bateau une fois que vous avez traversé la rivière. Et donc, on ne devrait pas non plus s'attacher au dharma et à la sangha. Vous faites la pratique afin de vous transformer vous-même et après ça, vous n'avez plus besoin de vous accrocher à la pratique. Vous devriez laisser les choses s'en aller. Donc ça, c'est l'instruction. Concernant la physique quantique, vous savez mieux que moi, mais ce qu'on m'a dit, avec des mots très simples, par ces scientifiques, il semble que moi, j'ai suivi des conférences de l'Institut Mind and Life pendant lesquelles certains des scientifiques les plus renommés de ce domaine sont venus expliquer ces choses au Dalai Lama, eh ben, ce que j'ai compris, c'est que ils expliquaient que c'était pas, ils expliquaient pas avec des mathématiques et tout ça, parce que personne alors n'aurait pu comprendre, à moins d'être soi-même du domaine. Et donc eux, ils ont essayé d'expliquer les choses en des termes très simples et avec une terminologie très simple afin que nous puissions comprendre un peu ce qu'ils disaient, ce qu'ils expliquaient. Mais ça, c'est juste un exemple. Prochaine personne, c'est Vanita. Bonjour Rinpoche. J'ai levé la main parce que je voulais offrir de traduire de l'espagnol. Mais puisque je suis là, ce serait dommage de ne pas vous poser une question. Dans votre réponse à cette personne, vous avez parlé du fait que à la fin de la pratique, il y avait la phase de dissolution ou la phase où on demande à la déité de partir. Je pense que je fais les choses pas forcément très bien. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de confusion sur les détails auxquels on devrait attacher de l'importance. Quand vous avez enseigné sur Tara, vous avez dit qu'on n'avait pas forcément besoin de passer par toutes les étapes. Et moi, j'ai la compréhension dualiste que du moment que vous pratiquez, c'est pas très important que vous fassiez les choses bien parce que vous, ça y est, vous pratiquez. Et d'un autre côté, j'ai conscience du fait que les pratiques peuvent être très détaillées, très précises, et que ça a toute son importance. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire ? Oui, dit Rinpoche. Donc Rinpoche prend la parole et il dit toutes les personnes sont différentes. Les personnes ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des personnes qui ont cette façon de faire les choses d'une manière très méticuleuse, étape par étape et tout ça. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ainsi, mais qui vont à l'essentiel et qui font cet essentiel. Et puis, il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser comme si on voyait les personnes devant soi, qu'on visualise, mais qui peuvent sentir, et ces personnes peuvent faire ça. Vous savez, les personnes sont différentes l'une de l'autre, et donc, dès que vous arrivez à toucher l'essence, je pense que c'est bon. Je pense que le point le plus important, c'est que toutes ces pratiques, elles ont pour objectif de vous transformer vous-même. Donc, si vous arrivez à trouver une connexion entre cette pratique et comment vous vous transformez, comment vous travaillez sur vos émotions négatives, vos tendances habituelles négatives, comment travailler sur votre compassion, votre sagesse, alors c'est bon, je pense. Merci beaucoup Rinpoche, ça me donne beaucoup plus d'assurance dans ma pratique. Vous rendez les choses si simples, vraiment merci beaucoup. Et si quelqu'un a besoin de traduction de l'espagnol à l'anglais, je peux faire ça. Appelez Vanita, dit Rinpoche. Et Anna est également là, et elle est également une très bonne traductrice. Bonjour, Hélène. Vous allez bien, demande Rinpoche ? Oui, on va bien. J'ai une question sur comment prendre soin du corps physique pour nous mettre en bonne santé, tout particulièrement en ces temps, car nous essayons vraiment de changer notre alimentation. Et j'ai remarqué que il y a quelques mois, j'étais pleine de craintes, d'inquiétudes, d'anxiété, et j'ai changé ma façon de manger et j'ai aidé mon corps à éliminer, à se nettoyer. Et j'ai vraiment le sentiment que ça m'a aidé à dissiper mes craintes. Donc je ne sais pas comment formuler, mais est-ce qu'il y a des enseignements, des sutras qui ont été énoncés sur la nourriture, sur comment manger, quoi manger, et sur qui expliquent le processus de comment on mange, car la nourriture que nous mangeons, elle a un effet très direct sur notre corps et notre esprit. Donc, est-ce qu'il y a des enseignements dans le bouddhisme sur ce point? Et je voudrais juste ajouter, parce que j'ai eu cette expérience après avoir visité la grotte de Mahakala proche de Bodh Gaya, la deuxième fois où j'y suis allé, juste après être redescendu du sommet de la montagne, j'ai commencé à me sentir pas bien. Et j'ai vraiment éliminé pendant 2 jours, c'était comme une grande purge. Et pourquoi est-ce que il m'est arrivé ceci à cet endroit-là? Et j'ai vraiment l'impression que ça aide l'esprit à améliorer sa compréhension. Alors Rinpoche répond. En fait, c'est lié à la médecine. C'est une partie, c'est la partie médicale des enseignements. Et là, c'est très développé. Donc, si vous voulez vraiment l'étudier, c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est pas pareil pour tout le monde. C'est vraiment une chose qui varie d'un individu à l'autre. Donc tout doit être équilibré. Donc il y a des gens qui ont plus de ceci et moins de cela. Donc ça doit être équilibré. Et donc si par exemple quelqu'un a trop de ce qu'on appelle chipa ou autre chose, alors il faut manger des choses qui travaillent là-dessus, comme des choses amères, ou alors si quelqu'un a plus de l'énergie de vent, alors il faut qu'elle mange ces personnes de telle et telle façon. Donc il y a toutes sortes de choses différentes. Donc l'idée en tout cas, c'est que du point de vue tibétain et même du point de vue de la partie médicale du bouddhisme indien, c'est vraiment l'idée que ça dépend d'une personne à l'autre, ça varie d'une personne à l'autre, et il n'y a pas de raison que ce soit pareil pour tous les individus. Donc ça dépend vraiment de l'état de santé et des humeurs de chaque individu. Et aussi parfois, on dit que ça peut varier d'une saison à l'autre, que selon la saison, c'est des nourritures différentes qui vont être bonnes pour la personne. Et donc, quand vos humeurs ou vos états d'esprit changent, votre corps change aussi. Et en raison de l'âge aussi, ça peut varier. Donc, il y a beaucoup de facteurs et donc ça rend l'étude un peu compliquée. Mais c'est documenté. Et puis, j'ai beaucoup d'amis qui sont diététiciens. Et ils sont tellement différents de l'un à l'autre que moi, ça me rend totalement confus. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas une bonne personne à qui demander ça parce que je ne suis pas un très bon exemple en la matière. Je mange de tout, tout le temps. et je n'ai aucune je vais pas me faire suivre du plan de vue sur le plan diététique, donc je suis pas probablement un très bon exemple de ça pour ça. J'ai une autre question en fait. On dit qu'au niveau ultime, notre esprit est pur et propre. Mais si c'est vrai, alors de quand et on, ah, comment on pourrait même commencer à accumuler ce karma, ces souillures, cette souffrance? Quelle est l'origine de toutes ces choses? En fait, Rinpoche répond, quand vous dites que c'est notre nature ultime, que quand vous dites que cette nature ultime, elle est pure ou qu'elle est propre, c'est pas la même chose que de dire que nous avons été très purs, que nous avons été un Bouddha auparavant et que ensuite on serait devenu un non-Bouddha. On serait devenu ignorant. Non, les choses ne marchent pas comme ça. C'est plutôt... Nous avons la capacité à savoir et à connaître. Nous avons cette capacité à savoir et à connaître. Par exemple, nous avons la capacité d'apprendre, de savoir quelque chose, mais ça ne veut pas dire que nous savons les choses dès le début et que nous les oublions ou que nous les perdions. Prenons un exemple. Si je ne connais pas quelque chose, si je ne sais pas lire, ou si je s'il y a une information dont je ne dispose pas, alors quand quelqu'un me donne cette information, alors j'en dispose, je sais cette information parce que j'ai cette capacité de savoir. Mais on ne peut pas se dire depuis quand est-ce que je ne savais pas. Ça, on ne peut pas poser cette question. Parce que il n'y a pas de commencement, l'ignorance n'a pas de commencement. Parce que si il y avait un commencement, ça voudrait dire qu'il y aurait une sorte d'oubli et qu'il n'y avait pas d'ignorance. Mais donc quand on dit ignorance, c'est pas qu'on savait et puis qu'on a oublié et puis qu'il nous faudrait le réapprendre. Si ça c'était le cas, alors même si nous devenions éveillés, on pourrait ressortir de cet état d'éveil, et ça n'est pas le cas. Nous avons la capacité naturelle de connaître, de savoir, et donc par conséquent, nous pouvons devenir éveillés. Mais il ne faut pas penser que une fois que nous savons, une fois que nous sommes éveillés, en fait, on ne pourra pas oublier. Et donc, l'ignorance n'a pas de commencement. Parce que aucune ignorance n'a de commencement. Merci beaucoup, Rinpoché. Il a. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Je voudrais vous poser une question sur les sept types d'orgueil que vous décrivez dans le chapitre 5, l'orgueil de je suis égal. Je ne comprends pas cet orgueil-là. Pour moi, c'est pas un orgueil, je veux dire. Et donc Rinpoche répond. Par exemple, quand vous dites je suis le pire, je suis le plus nul, c'est aussi une forme d'orgueil. C'est aussi considéré comme un orgueil, et donc cet orgueil... En fait, l'orgueil bouddhiste, il est plus grand que l'orgueil au sens habituel. L'orgueil au sens habituel, c'est comment dire? C'est un peu le complexe de supériorité, on pourrait dire. Je vaux plus, je suis mieux, je regarde les autres de haut. Ça, c'est de l'orgueil. Je n'ai plus le son pour le moment. J'espère que ça va revenir. Donc j'ai été déconnecté. Donc j'attends pour l'instant d'être reconnecté. Donc en fait, j'ai été coupé, donc je reprends. Donc l'idée qu'on est le plus nul, c'est de l'orgueil. Oui, on a des défauts, mais on n'est pas le pire, parce qu'on a aussi des bonnes choses. Donc ce serait incorrect de dire qu'on est le pire. De même, dire qu'on est le meilleur, c'est faux de la même manière. Et dire qu'on est égal, c'est comme si quelque part on était en compétition. En fait, on a beaucoup de choses en commun avec cette personne, mais on a aussi des choses qui ne sont pas en commun avec cette personne. Et donc, c'est pas nécessairement tout pareil. Mais donc, l'idée qu'on doit absolument être égal. Et si vous essayez d'être l'égal de quelqu'un d'autre, alors vous négligez vos autres qualités pour lesquelles peut-être vous seriez mieux que cette personne. Et alors, vous essayez de prouver beaucoup d'autres choses qui ne sont pas les mêmes. Ah, vous essayez d'améliorer plutôt d'autres choses qui sont moins bien que chez cette personne. Vous êtes vous-même et vous n'avez pas besoin de faire la compétition, vous n'avez pas besoin de vous comparer. Il y a beaucoup de similarités, beaucoup de différences et c'est très bien, vous n'avez pas besoin d'être ni égal, ni au-dessus, ni en dessous. Donc c'est un peu comme ça. Elle dit d'accord, je comprends maintenant, merci. Ila ? Bonjour Rinpoche. Ça fait plaisir de vous voir deux fois en une seule journée. J'ai une triple question concernant le karma. Si tout apparaît dû aux causes et conditions, est-ce que le monde est déterministe? Et sinon, comment est-ce que le libre arbitre rentre en jeu? Et est-ce qu'on considère que nos actions font que ça va être plus facile d'agir de même façon? Comment est-ce qu'on peut briser ces motifs et ces tendances habituelles? Et Rinpoche dit, on a tous de la sagesse. On a la conscience, on a la compréhension et un peu de sagesse qui nous permet de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Il y en a entre nous qui en ont un peu plus et d'autres qui en ont un peu moins, mais on en a tous, ne serait-ce qu'un peu. Et c'est quelque chose que nous pouvons développer. Et donc, notre façon d'être en ce moment, elle est liée à toutes les tendances habituelles et à tout ce qui nous est arrivé auparavant qui constitue ce que nous appelons notre karma. Donc nous avons la tendance à être ainsi, des bonnes choses, des mauvaises choses, toutes sortes de choses nous avons accumulées. Mais nous avons aussi cette sagesse et nous pouvons voir que j'ai cette tendance à être déstabilisé, bouleversé, en colère, impatient. Et donc, je le sais, je me rends compte que ce n'est pas ce que je devrais faire. Et donc parfois, je ne travaille pas dessus et je me comporte simplement de ma manière habituelle. Et donc c'est le comportement que j'avais avant qui va se perpétuer. Et parfois je me dis non, je ne devrais pas faire ça. Je devrais faire autrement. Je devrais réagir d'une façon différente. Je devrais changer mes habitudes. Et puis de me dire si je travaille dessus, je peux les changer. Et donc ainsi, je peux changer le karma. Je peux changer le karma parce que j'ai cette sagesse et j'ai cette force de volonté. Et en particulier, si j'apprends et si quelqu'un me dit ou me convainc que telle façon de faire est bien meilleure que telle autre, alors je peux apprendre et je peux mettre ça en pratique. Et ça peut changer tout le motif karmique. Et donc, je ne tombe plus dans ces tendances habituelles et à la place de mon comportement habituel, à la place de ce que je faisais de manière instinctive, eh ben, je deviens plus conscient, je deviens plus attentif et je m'entraîne à faire de façon différente, à penser de façon différente, à réagir de façon différente, et alors je change, et ainsi je change mon karma. Donc le karma, ça prépare les causes et conditions, mais nous avons toujours le libre arbitre pour agir autrement, demande la personne. Et Rinpoche dit oui, le karma, en un sens, c'est les tendances habituelles. La façon dont nous sommes habitués à faire les choses. En fait, on a cette façon de faire les choses, et si on laisse cette habitude se poursuivre, eh ben, on continuera à se comporter de cette façon. Mais si nous utilisons notre sagesse pour changer cela, alors nous pouvons changer le karma. Ok, merci Rinpoche, merci pour votre temps, et merci pour vos enseignements, et merci pour ces sessions de questions-réponses. C'est toutes les questions que j'avais, Rinpoche. Ok, merci beaucoup. Merci à tous, dit Rinpoche. Et à bientôt. Merci.